VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour Nathalie Barge et Anne Albertson.
Au sommaire en ce jeudi 19 mars 2015.
En Tunisie, 21 morts et au moins 24 blessés dans une attaque armée hier contre des touristes à Tunis. De nombreuses personnes dans le monde ont condamné cette attaque.
Somalie, le Pentagone confirme la mort d'un chef d'Al-Shabaab dans un raid aérien américain la semaine dernière.
Les élections locales avant la présidentielle, c'est l'exigence de l'opposition guinéenne qui a décidé de se retirer du Parlement.
Comment le Niger et ses milliers de kilomètres de frontières parvient-il à se protéger contre les djihadistes qui l'entourent ?
Aujourd'hui, nous sommes, si vous voulez, au niveau des trois frontières, notamment la frontière avec le Mali, la frontière avec la Libye et la frontière avec le Nigeria.
La réponse tout à l'heure avec Mahamadou Karidio, ministre de la Défense du Niger, au micro de notre envoyé spécial Idriss Fall.
La conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique s'est ouverte hier à Abidjan. Au menu, entre autres...
Lutter contre le terrorisme, le trafic des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, et le trafic des marchandises illicites.
Le président ivoirien Alassane Ouattara.
Et au lendemain de la victoire de Benjamin Netanyahou, Washington réaffirme son soutien à une solution à deux États dans les négociations israélo-palestiniennes.
Et avant la Minute Éco, les sports, voici les infos.
Le Premier ministre tunisien a annoncé que 21 personnes, y compris des touristes, ont été tuées hier par des hommes armés au musée du Bardo à Tunis. Deux des assaillants ont également été tués lorsque les forces de sécurité sont intervenues pour mettre fin à l'attaque. Parmi les morts, 17 sont des voyageurs en provenance de Pologne, d'Italie, d'Allemagne, d'Espagne, de Colombie, du Japon et de la France. Deux membres des forces de sécurité ont également été tués lors de l'opération, a déclaré le Premier ministre Habib Essid. Lors d'une conférence de presse, ajoutant qu'au moins 24 personnes ont été blessées dans cette attaque près du Parlement. Pour l'heure, on ignore qui étaient les hommes armés.
Et l'attaque a été condamnée dans le monde et de nombreux messages de soutien à la démocratie tunisienne ont été prononcés. Dans un communiqué, le secrétaire d'État américain John Kerry a condamné, et je cite, avec la plus grande fermeté, l'attaque terroriste meurtrière de Tunis. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, lui a emboîté le pas, la qualifiant d'acte lamentable. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a confirmé que l'Alliance transatlantique continuera à travailler avec la Tunisie et avec ses partenaires du dialogue méditerranéen dans la lutte contre le terrorisme.
En annonçant que deux Français avaient été tués et 7 autres blessés dans l'attaque, le président François Hollande a dit avoir immédiatement appelé le président tunisien pour lui exprimer sa solidarité et son soutien. En Italie, pays dont 3 ressortissants ont été tués et 6 autres blessés, le chef du gouvernement, Matteo Renzi, a défendu la Tunisie en tant que démocratie, indique l'AFP. Le Japon, qui a confirmé la mort d'au moins 3 de ses ressortissants, a exprimé son indignation. Et entre autres pays, la Colombie et le Maroc ont aussi déploré cet acte de terrorisme en Tunisie.
Le Pentagone a confirmé qu'un chef du groupe islamiste Al-Shabaab a été tué la semaine dernière dans une attaque de drone américain dans le sud de la Somalie. L'attaque aérienne du 12 mars a frappé une voiture transportant Adan Garar, un haut dirigeant du service de sécurité d'Al-Shabaab, l'AMNIAT, tel que rapporté par la Voix de l'Amérique le jour de l'attaque. Le Pentagone a estimé que cette attaque près de Dinsor en Somalie avait infligé une nouvelle défaite à Al-Shabaab.
En Guinée, l'opposition suspend sa participation au Parlement et à la commission électorale pour marquer son désaccord avec le calendrier électoral actuel. Des détails avec Nicolas Pineau.
Oui, cette décision est symbolique puisque l'Assemblée guinéenne ne siégera pas avant le mois prochain. Sélou Dalein Diallo, Sidya Touré et Lansana Kouyaté, les 3 grands leaders de l'opposition, doivent se retrouver ce week-end à Paris pour faire le point. Ils se sont déjà mis d'accord pour que les 49 députés de l'opposition se retirent de l'Assemblée nationale jusqu'à nouvel ordre. L'opposition décide aussi de ne plus reconnaître l'autorité de la CENI. Par ce geste, les opposants guinéens espèrent se faire entendre pour que les élections locales aient lieu avant le scrutin présidentiel. Dans le calendrier actuel, la Commission nationale électorale indépendante prévoit d'organiser le scrutin présidentiel le 11 octobre et les élections communales en 2016. Depuis l'élection d'Alpha Condé à la tête de la Guinée, les relations entre opposition et pouvoir guinéen sont exécrables et beaucoup redoutent de nouvelles violences lors de la présidentielle.
Le gouvernement malien et la médiation internationale ont écarté hier toute discussion du contenu de l'accord de paix d'Alger, appelant de nouveau le mouvement rebelle du nord du Mali à le paraffer en l'état. Claire Morin-Gébourg.
La CMA, la coordination des mouvements de l'Azawad, a plusieurs revendications et notamment la reconnaissance officielle de l'Azawad comme une entité géographique, politique et juridique, en référence à l'appellation du nord du Mali par les rebelles, mais aussi la création d'une assemblée interrégionale couvrant cette zone et un quota de 80% de ressortissants de l'Azawad dans les forces de sécurité. Dans un communiqué publié hier, la médiation internationale précise que la phase des négociations est achevée, mais disant avoir pris bonne note des exigences présentées lors de la rencontre de Kidal, elle souligne que cet accord n'a pas la prétention de résoudre à la fois et dans l'immédiat tous les problèmes posés. De son côté, le gouvernement malien affirme de manière solennelle que le paraphe du document, en attendant sa signature, exclut toute idée d'ouvrir de nouvelles négociations sur son contenu. Son porte-parole, Choguel Maïga, a déclaré que les autorités maliennes appellent la médiation à ses responsabilités en tant que garant du processus de paix.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Une fusillade dans un bar à Gothenburg en Suède a fait plusieurs morts et plusieurs blessés la nuit dernière. Les blessés ont été transportés à l'hôpital, a déclaré à l'AFP une porte-parole de la police. Une arme automatique a été utilisée, a-t-elle précisé, ajoutant que cette attaque pouvait être liée au crime organisé. La police a ensuite annoncé dans un communiqué que le nombre de morts était susceptible d'augmenter.
La réélection du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou n'aura aucun impact sur les négociations nucléaires avec l'Iran, assure le Département d'État américain. De son côté, la Maison-Blanche a réaffirmé hier son soutien à une solution à deux États dans les négociations israélo-palestiniennes. Des précisions avec Eddie Isango.
Monsieur Netanyahou s'était juré à la veille du scrutin de ne jamais accepter la création d'un État palestinien aux côtés d'Israël. Mais le président Barack Obama continue de penser que cette solution est la meilleure façon de répondre aux tensions, a déclaré hier Josh Ernest, porte-parole de la Maison-Blanche. Monsieur Ernest a par ailleurs exprimé l'inquiétude des États-Unis face à certains discours qui divisent et cherchent à marginaliser les citoyens arabes israéliens. Concernant les nucléaires iraniens, les porte-paroles du département d'État américain, Jen Psaki, a déclaré « Nous connaissons depuis longtemps le point de vue du Premier ministre sur l'Iran », ajoutant que la réélection de M. Netanyahou n'échangera pas la donne. Les négociations avec l'Iran se poursuivent à Lausanne, en Suisse. Les relations entre M. Obama et Netanyahou, notoirement tendues, se sont encore aggravées avec la venue à Washington du Premier ministre israélien à l'invitation des républicains du Congrès pour un discours dans lequel il a dénoncé avec virulence les négociations en cours avec l'Iran.
Au Yémen, le trafic aérien à l'aéroport international d'Aden a été suspendu ce jeudi en raison de violences dans les environs entre partisans et adversaires du président Abdrabo Mansour Hadi, rapporte l'AFP. Plusieurs vols ont été annulés, a déclaré une source aéroportuaire, tandis que de violents accrochages opposaient des unités des forces spéciales dirigées par un officier rebelle et des membres des comités populaires partisans du président Hadi.
Human Rights Watch a dit que les forces gouvernementales ukrainiennes et les rebelles ont utilisé des bombes sous munitions dans l'est de l'Ukraine en janvier et février, tuant au moins 13 civils, dont 2 enfants. L'ONG internationale a déclaré ce jeudi qu'aucune des parties dans le conflit ne devait utiliser ces armes et a averti que leur utilisation pourrait constituer un crime de guerre.
Une cour indonésienne a examiné un recours de 2 trafiquants de drogue australiens condamnés à la peine capitale et a fixé la prochaine audience au 25 mars, rapporte l'AFP. Ce même jour, un autre tribunal examinera le recours du français Serge Atlaoui, également condamné à mort. Les Australiens Andrew Chan et Murian Sukumaran ont été condamnés à mort en 2006 en Indonésie pour trafic d'héroïne. Les demandes de grâce présidentielle ont été rejetées. Une décision pourrait être rendue début avril.
Et le gouvernement du Vanuatu reproche aux organisations humanitaires mobilisées dans l'archipel dévasté par un cyclone une mauvaise coordination ayant causé une perte de temps considérable au secours, indique l'AFP. Le vice-président de la Commission nationale des catastrophes, Benjamin Xing, a remercié les associations internationales tout en soulignant que la famine menaçait les habitants. Beaucoup d'ONG ont travaillé dans leur coin plutôt que de coopérer avec le gouvernement, a-t-il déploré. Vendredi, le cyclone PAM, avec des rafales supérieures à 320 km/h, a fait plusieurs morts et détruit de nombreuses habitations sur l'archipel. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est dans la Minute Éco avec Jean-Roger Bion.
La Banque centrale américaine a fait hier un pas supplémentaire vers une hausse de ses taux d'intérêt. La Fed a changé de posture en abandonnant son engagement à se montrer patiente, même si elle a précisé qu'un tel relèvement n'aurait pas lieu en avril. À l'issue de deux jours de réunion à Washington, le comité monétaire de la Réserve fédérale a une nouvelle fois confirmé le maintien de ses taux directeurs proches de zéro, leur niveau depuis fin 2008 afin de continuer à soutenir la reprise aux États-Unis. Cameroun, plus de 36 milliards de francs CFA pour l'approvisionnement en eau potable à Yaoundé. Ce capital a pu être réuni grâce à une convention de coopération entre la Société Générale de France, la Banque Import-Export des États-Unis et le gouvernement camerounais. Le projet visé devrait permettre en phase d'urgence de porter l'offre à 205 000 mètres cubes pour la capitale Yaoundé en proie à l'assèchement régulier des robinets. Et le groupe informatique américain Microsoft a annoncé que son nouveau système d'exploitation Windows 10 serait lancé cet été dans 190 pays et disponible en 111 langues. Microsoft avait précédemment indiqué en début de semaine que le futur système d'exploitation offrirait la possibilité de se connecter sans mot de passe en utilisant des technologies biométriques comme la reconnaissance faciale.
Merci beaucoup Jean-Roger pour cette page économie. Et à présent, les sports avec Nicolas Pineau. Bonjour Nicolas.
Bonjour Nathalie.
Alors la CAN Junior au Sénégal, l'heure de vérité pour les Lionceaux de la Teranga.
Le pays organisateur affronte tout à l'heure le Mali pour une place en finale. Les Maliens premiers du groupe B partent légèrement favoris, alors que le Sénégal a arraché sa qualification lors de l'ultime journée face au Congo, victoire 4-3. Le coup d'envoi, c'est tout à l'heure, 17h, temps universel. Le vainqueur de cette demi-finale rencontrera le Nigeria. Les Flying Eagles ont battu les Black Starlets du Ghana hier, 2-0. Obinna Emmanuel Mbobodo avait ouvert le score en première mi-temps. Puis c'est le capitaine nigérian Moussa Mohamed qui a porté le coup de grâce en fin de match, victoire 2-0. Les Nigérians atteignent donc la finale de cette CAN Junior.
La Côte d'Ivoire, victorieuse de la CAN 2015, affrontera finalement la Guinée équatoriale et non la Guinée en match amical le 29 mars à Abidjan.
Le désistement de la Guinée relève d'un problème administratif, a précisé la Fédération ivoirienne de football. Un autre match amical contre l'Angola est toujours prévu le 26 mars à Abidjan.
Le championnat d'Égypte va reprendre le 30 mars, mais tous les matchs seront à huis clos.
Le championnat avait été suspendu à l'issue des violences meurtrières devant un stade du Caire début février. Le gouvernement égyptien autorise donc la reprise du championnat. C'est ce qu'a indiqué le bureau du Premier ministre Ibrahim Marlab dans un communiqué.
Les derniers huitièmes de finale de la Ligue des champions en Europe. En Allemagne, le miracle n'a pas eu lieu. La Juventus de Turin s'est qualifiée aux dépens de Dortmund. Le score final hier soir, 3-0. Au camp nou non plus, il n'y a pas eu de suspense. Le FC Barcelone vainqueur à l'aller en Angleterre se qualifie aussi pour les quarts de finale. 1-0 hier soir contre Manchester City. Et enfin, Nicolas, le tournoi de tennis d'Indian Wells aux États-Unis.
Oui, Andy Murray a mis fin au parcours d'Adrian Manarino, le score en 2-7, 6-3, 6-3. Et puis Nathalie, je vous laisse donner quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain.
Oui, 5 matchs hier soir. Les Chicago Bulls ont gagné le match contre les Pacers 103-86. Les Spurs de San Antonio gagnant contre les Bucks de Milwaukee 114-103. Los Angeles a gagné le match contre Kings de Sacramento 116-105. Washington Wizards gagnant contre Utah Jazz 88-84. Et les Warriors ont gagné contre Atlanta 114-84.
Quinze. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers du jour. 21 morts, dont 17 touristes et au moins 24 blessés. C'est le dernier bilan de l'attaque contre le musée du Bardo à Tunis. Hier, des hommes armés ont ouvert le feu sur les visiteurs. L'attaque intervient dans un contexte politique encore très tendu et une situation économique qui ne fait que s'aggraver depuis le printemps arabe. Pour une analyse, Salwa Jafari a joint à Paris le spécialiste du monde arabe Mustapha Tossa.
C'est le genre d'opération auquel se livrent des organisations terroristes comme Al-Qaïda ou l'État islamique. Et on sait que depuis un certain temps, les autorités tunisiennes avaient procédé à des démantèlements fréquents de cellules terroristes qui préparaient des attentats en Tunisie. Ils avaient aussi découvert des caches d'armes. Donc il y avait une pression sécuritaire sur la Tunisie qui était extrêmement importante et palpable. Et cette pression sécuritaire vient toujours du chaos libyen. On sait qu'il y a des organisations terroristes très actives en Libye et qui ont promis de commettre des attentats en Tunisie. Et donc ils ont réussi à tuer des gens et surtout à s'attaquer à des symboles dans un contexte politique extrêmement important pour la Tunisie.
Que pouvez-vous nous dire sur le contexte politique actuel ?
D'abord, la Tunisie est un des rares pays du printemps arabe qui a réussi relativement une douce et démocratique transition qui a été saluée par beaucoup de pays dont les États-Unis et l'Union européenne. Donc il y a une jeune démocratie qui était en train de naître et de grandir. Donc il faut dire que un certain nombre d'organisations terroristes n'ont aucun intérêt à ce que ce genre d'expérience puisse voir le jour sur le territoire arabe. Le deuxième message, c'est de voir aussi à quel point la Tunisie voisine est impactée par la situation en Libye. Tant qu'on n'a pas réussi à trouver une solution sécuritaire à ce qui se passe en Libye, on aura forcément des impacts de ce chaos sur les pays voisins. Et je considère que cette opération terroriste, parce qu'elle vise un lieu touristique à côté d'un lieu politique symbolique qui est le Parlement, fait partie de ces démarches et de ces entreprises de terreur qu'exportent des organisations comme l'État islamique ou Al-Qaïda. Troisième élément qui est très important, il ne faut pas oublier que cette opération terroriste intervient à la veille d'un projet de réconciliation nationale que le nouveau président de la République, Bachir Kaïd Sebsi, allait proposer aux Tunisiens. On peut envisager que cet attentat-là a pour but aussi d'empêcher la réconciliation et la stabilisation et la pacification des esprits en Tunisie.
C'était le journaliste et politologue Mustapha Tossa. Hier, le ministre nigérien de la Défense a parlé de questions de sécurité sur la voie de l'Amérique. Le sud de la Libye continue d'être une grande source d'insécurité, a expliqué Mamadou Karidio, tout en soulignant que l'armée surveille également la situation sur les autres frontières, notamment avec le Mali et bien sûr le Nigeria. Voici la seconde partie de l'entretien avec notre envoyé spécial Idriss Fall.
Tous les trafiquants du monde sont en Libye. Et nous savons que le sud libyen est devenu leur terreau. Nous avons pris des dispositions au niveau du Niger pour mettre en place des bataillons autonomes et essayer de verrouiller le passage qui peut les amener au Mali. On essaie de contrôler le trafic entre la Libye et le Mali. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile, mais nous sommes en train de faire ce que nous pouvons faire avec nos forces spéciales et aussi la collaboration des partenaires stratégiques. Bien sûr que à un moment donné, on était plus concentré sur le sud libyen, sans perdre des yeux ce qui se passait au Nigeria, je veux dire sur notre frontière au niveau de Diffa. Et à un moment donné, comme nous avons senti que la menace était vraiment imminente, nous avons renforcé nos positions sur cette frontière-là, tout en restant avec assez d'effectifs sur les autres positions. Telle enseigne qu'aujourd'hui, nous sommes, si vous voulez, au niveau des trois frontières, notamment la frontière avec le Mali, la frontière avec la Libye et la frontière avec le Nigeria.
Quel est l'apport des États-Unis dans la lutte contre le terrorisme?
Beaucoup de renseignements que nous partageons avec les États-Unis d'Amérique. Beaucoup d'interventions au niveau de la formation de nos hommes. Nous avons des forces expéditionnaires, des forces spéciales qui ont été formées par les forces armées américaines. Nous avons beaucoup de matériel qui ont été donnés par le gouvernement des États-Unis d'Amérique. Je dirais que la coopération entre les forces armées américaines et les forces armées nigériennes est très fructueuse et c'est des partenaires stratégiques qui, sur le terrain, nous aident par le renseignement et la formation. Ils n'interviennent pas au combat, au sol, avec nous, mais en tout cas, ils nous donnent assez de renseignements pour nous permettre d'anticiper et d'accomplir nos missions avec le minimum de risques.
Les drones américains sont toujours présents, déployés ici, et il y en a combien ?
Je souhaiterais ne pas vous dire combien il y en a, mais ils sont là quand même.
Le ministre de la Défense du Niger, Mamadou Karidjo.
La Voix de l'Amérique au Niger sur Enfani FM à Niamey, Zinder et Agadez et sur Radio Dalol FM à Dongondjouchi.
Au Tchad, c'est en principe aujourd'hui que les cours reprennent à N'Djamena. Ils avaient été suspendus par les autorités suite aux violents incidents liés à l'imposition du casque aux motocyclistes, des incidents qui avaient coûté la vie à un étudiant. Estimant avoir été pris à partie alors qu'il n'était pas à l'origine des violences, les étudiants avaient déclenché une grève illimitée en signe de protestation. En dépit des concertations avec les autorités, ils estiment que leurs principaux griefs n'ont pas été pris en compte. Timothée Donangmaï a joint hier soir à N'Djamena Nadjo Kaina, le président de l'Union nationale des étudiants tchadiens.
Dès le départ, le bureau national des étudiants tchadiens a posé quelques conditions avant la reprise des cours. Nous avons été reçus par le chef de l'État. Nous avons essayé de discuter sur les conditions. Et comme nous l'avons dit à la sortie de l'audience, nous allons faire un compte-rendu à la base. Et c'est ensemble avec les étudiants que nous allons décider dans quelle mesure nous allons reprendre avec les cours.
Quelles sont ces conditions?
Bon, le bureau national de l'UNED avait posé comme première condition le départ sans condition du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. On a mis sur pied une enquête spéciale où l'UNED sera parti. On va dire devant la justice les coupables et la suivi des blessés. Et je crois que quelques points ont été abordés par le chef de l'État. Et comme nous l'avons dit, nous allons faire un travail avec les étudiants à la base. Nous allons voir quelles sont les avancées. Et c'est ainsi que nous allons voir dans quelle mesure nous allons reprendre avec les cours.
Aux dernières nouvelles, on a appris l'interpellation des policiers qu'on a vus sur cette vidéo en train de violenter des lycéens. Quelle est votre réaction à cela?
Bon, je crois que, comme nous l'avons dit, nous voudrions que la lignée soit faite afin qu'on situe les responsabilités. Si les policiers arrêtés sont coupables, ils doivent être traduits devant la justice pour répondre de leur acte. Et je crois que lors de cette bavure, il n'y avait pas seulement que 11 policiers. Et nous attendons la suite de l'enquête.
Quel délai vous donnez-vous pour arrêter une position?
Je crois que les étudiants sont en grève très limitée. En même temps, nous sommes en train de faire un travail préalable avec les étudiants. Donc, nous n'avons pas de délai à donner de temps puisque nous sommes déjà en grève très limitée.
Donc, on peut conclure que vous n'êtes pas satisfait par les mesures prises jusqu'ici par les autorités.
Je crois qu'il y a quelques avancées et à certains points qui n'ont pas été encore pris en compte. Et nous attendons toujours la suite. Et néanmoins, nous allons faire le compte rendu fidèlement aux étudiants et ensemble, lors d'une assemblée générale, je crois que nous allons décider si nous allons reprendre avec les cours ou pas encore.
Mais ne pas reprendre les cours, est-ce que cela ne vous causera pas du tort pour l'année académique?
Certes, monsieur, c'est aussi un moyen de pression pour que la lumière soit faite et que de tels événements ne se répètent plus.
Nadjo Kaina, président de l'Union nationale des étudiants tchadiens.
La Voix de l'Amérique au Tchad, 24 heures sur 24, à N'Djamena, en direct sur 93.1 FM et sur FM Liberté, aussi à N'Djamena.
Une conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique s'est ouverte mercredi à Abidjan. Pour les dirigeants africains et les experts des institutions financières, il s'agit d'étudier les mécanismes à mettre en pratique pour ce faire. Voici un reportage de Germain Dri, notre correspondant à Abidjan.
Environ 40 pays invités avec près de 300 experts de haut niveau vont à travers des panels et conférences évaluer les conditions de l'émergence, améliorer leur politique et stratégie par rapport aux leçons apprises et saisir les opportunités nouvelles pour le bien-être des populations. Dès l'entame des échanges, Riyad Medim, conseiller économique principal pour le développement des Comores, a affirmé qu'il attend beaucoup des autres.
Ce qu'on attend de cette conférence, c'est des échanges de bonnes pratiques sur les stratégies d'émergence. D'autant plus qu'on est passé d'un document de stratégie et de réduction de la pauvreté pauvreté classique à une croissance accélérée et dans laquelle nous mettons l'environnement comme un moteur de la croissance. Et surtout apprendre de certains pays qui sont déjà arrivés au niveau de l'émergence les meilleures pratiques.
Les objectifs pour atteindre l'émergence sont multiformes. C'est pourquoi les points de vue des dirigeants sont variés. Aboula Amandier, traité régional du PNUD pour l'Afrique, a énuméré deux contraintes à ne pas négliger.
D'abord, il y a des contraintes d'ordre structurel. Très souvent, c'est des économies basées sur un secteur. Le pétrole, le café, le cacao. Et quand il y a des retournements de conjoncture, l'économie s'effondre. Il faut que les économies soient diversifiées, interconnectées et que les facteurs de production passent des secteurs moins productifs vers les secteurs plus productifs. Un petit pays ne peut pas émerger comme ça tout seul, sans l'intégration économique. On ne pourra pas émerger sans coopération et intégration régionale.
Le président sénégalais Macky Sall pense que la croissance seule ne suffit pas.
La croissance n'est pas une fin en soi. Elle n'a de portée réelle que si elle transforme qualitativement et de façon durable les conditions de vie des populations. En plus d'être forte et durable, la croissance qui conduit vers l'émergence doit générer des emplois, faire reculer le chômage et la pauvreté et réduire les inégalités sociales. L'Afrique a des déficits substantiels qu'elle ne peut combler qu'en changeant de rythme et d'approche dans ses politiques de développement.
Le chef de l'État ivoirien estime qu'il faut tenir compte de la coopération. Alassane Ouattara.
Si nous voulons réussir le pari de l'émergence, nous devons promouvoir l'efficacité de la coopération au développement, à commencer par la coopération sud-sud et la mobilisation des ressources intérieures. Renforcer le partage des connaissances et des capacités humaines et institutionnelles en vue d'accroître la valeur ajoutée intra-africaine et le progrès technologique gage d'une amélioration des moteurs de la croissance. Lutter contre le terrorisme, le trafic des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, et le trafic des marchandises illicites.
Germain Dri, Abidjan, VOA Afrique.
Bénin, alors que le gouvernement a interdit la consommation de viande d'animaux sauvages afin de préserver les populations contre le virus Ebola, certaines localités n'entendent pas changer leurs habitudes alimentaires. Plusieurs mois après l'interdiction, notre correspondant Peggy Ludovic Dagba s'est rendu à Alada, dans le sud du pays, une région réputée pour la viande d'agouti.
La localité d'Alada, située à une soixantaine de kilomètres de Cotonou, dans le nord du Bénin, est connue pour être le berceau de la viande d'agouti. La consommation des viandes de brousse y est une tradition et les habitants ne pensent pas s'en départir malgré le risque de contracter le virus Ebola. Quelques-uns d'entre eux se sont confiés à nous.
Nous aimons les viandes de brousse parce que tous nos aïeux consomment la viande de brousse. C'est pourquoi nous aussi, nous consommons ça jusqu'à présent. Si Ebola existe ou pas, nous ne le savons pas. Il n'y a pas un cas confirmé au Bénin. C'est pourquoi nous consommons.
Et vous allez continuer toujours pas consommer?
Oui, nous consommons toujours.
Je mange la viande de la brousse.
Mais vous n'avez pas peur des maladies?
Non.
Je ne continue pas à manger les viandes de brousse, précisément la viande d'agouti. J'aime trop ça, je ne peux pas laisser. Il y a aussi le prix. Les autres viandes sont plus chères. Mais par rapport même au virus d'Ebola, vraiment, il faut y croire pour s'empêcher d'en consommer. Parce que cette histoire de virus d'Ebola, vraiment, on sait qu'il y en a, mais ce n'est pas encore venu au Bénin.
L'activité que constitue la vente de cette viande y est aussi héréditaire. Elle se transmet de la mère à la fille. Et rien ne peut la leur arracher. Pas même l'interdiction du gouvernement, comme nous le précise ici cette vendeuse rencontrée à Alada.
Ce commerce, je l'ai hérité de ma mère. Je vends la viande d'agouti depuis 30 ans. On en fait toutes sortes d'usages alimentaires et personne n'est jamais tombé malade. Cette mesure n'a fait qu'entraîner la mévente et nous sommes endettés jusqu'au bout. C'est ce commerce qui nous permet de joindre les deux bouts.
On le constate bien, les décisions gouvernementales ont du mal à passer au niveau des populations à la base. Peggy Ludovic Dagba, Cotonou, VOA Afrique.
Ainsi va le monde aujourd'hui. La mise en onde était assurée par Anne Albertson. À la console, c'était John Ellison. Avec vous, c'était Nathalie Barge. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voaafrique.com. Bon jeudi à toutes et à tous.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour Nathalie Barge et Anne Albertson.
Au sommaire en ce jeudi 19 mars 2015.
En Tunisie, 21 morts et au moins 24 blessés dans une attaque armée hier contre des touristes à Tunis. De nombreuses personnes dans le monde ont condamné cette attaque.
Somalie, le Pentagone confirme la mort d'un chef d'Al-Shabaab dans un raid aérien américain la semaine dernière.
Les élections locales avant la présidentielle, c'est l'exigence de l'opposition guinéenne qui a décidé de se retirer du Parlement.
Comment le Niger et ses milliers de kilomètres de frontières parvient-il à se protéger contre les djihadistes qui l'entourent ?
Aujourd'hui, nous sommes, si vous voulez, au niveau des trois frontières, notamment la frontière avec le Mali, la frontière avec la Libye et la frontière avec le Nigeria.
La réponse tout à l'heure avec Mahamadou Karidio, ministre de la Défense du Niger, au micro de notre envoyé spécial Idriss Fall.
La conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique s'est ouverte hier à Abidjan. Au menu, entre autres...
Lutter contre le terrorisme, le trafic des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, et le trafic des marchandises illicites.
Le président ivoirien Alassane Ouattara.
Et au lendemain de la victoire de Benjamin Netanyahou, Washington réaffirme son soutien à une solution à deux États dans les négociations israélo-palestiniennes.
Et avant la Minute Éco et les sports, voici les infos.
Le Premier ministre tunisien a annoncé que 21 personnes, y compris des touristes, ont été tuées hier par des hommes armés au musée du Bardo à Tunis. Deux des assaillants ont également été tués lorsque les forces de sécurité sont intervenues pour mettre fin à l'attaque. Parmi les morts, 17 sont des voyageurs en provenance de Pologne, d'Italie, d'Allemagne, d'Espagne, de Colombie, du Japon et de la France. Deux membres des forces de sécurité ont également été tués lors de l'opération, a déclaré le Premier ministre Habib Essid lors d'une conférence de presse, ajoutant qu'au moins 24 personnes ont été blessées dans cette attaque près du Parlement. Pour l'heure, on ignore qui étaient les hommes armés.
Et l'attaque a été condamnée dans le monde et de nombreux messages de soutien à la démocratie tunisienne ont été prononcés. Dans un communiqué, le secrétaire d'État américain John Kerry a condamné, et je cite, avec la plus grande fermeté l'attaque terroriste meurtrière de Tunis. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, lui a emboîté le pas, la qualifiant d'acte lamentable. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a confirmé que l'Alliance transatlantique continuera à travailler avec la Tunisie et avec ses partenaires du dialogue méditerranéen dans la lutte contre le terrorisme.
En annonçant que deux Français avaient été tués et 7 autres blessés dans l'attaque, le président François Hollande a dit avoir immédiatement appelé le président tunisien pour lui exprimer sa solidarité et son soutien. En Italie, pays dont 3 ressortissants ont été tués et 6 autres blessés, le chef du gouvernement, Matteo Renzi, a défendu la Tunisie en tant que démocratie, indique l'AFP. Le Japon, qui a confirmé la mort d'au moins 3 de ses ressortissants, a exprimé son indignation. Et entre autres pays, la Colombie et le Maroc ont aussi déploré cet acte de terrorisme en Tunisie.
Le Pentagone a confirmé qu'un chef du groupe islamiste Al-Shabaab a été tué la semaine dernière dans une attaque de drones américains dans le sud de la Somalie. L'attaque aérienne du 12 mars a frappé une voiture transportant Adan Garar, un haut dirigeant du service de sécurité d'Al-Shabaab, l'Amniat, tel que rapporté par La Voix de l'Amérique le jour de l'attaque. Le Pentagone a estimé que cette attaque près de Dinsour en Somalie avait infligé une nouvelle défaite à Al-Shabaab.
En Guinée, l'opposition suspend sa participation au Parlement et à la commission électorale pour marquer son désaccord avec le calendrier électoral actuel. Des détails avec Nicolas Pineau.
Oui, cette décision est symbolique puisque l'Assemblée guinéenne ne siégera pas avant le mois prochain. Sélouda Diallo, Sidya Touré et Lansana Kouyaté, les trois grands leaders de l'opposition, doivent se retrouver ce week-end à Paris pour faire le point. Ils se sont déjà mis d'accord pour que les 49 députés de l'opposition se retirent de l'Assemblée nationale jusqu'à nouvel ordre. L'opposition décide aussi de ne plus reconnaître l'autorité de la CENI. Par ce geste, les opposants guinéens espèrent se faire entendre pour que les élections locales aient lieu avant le scrutin présidentiel. Dans le calendrier actuel, la Commission nationale électorale indépendante prévoit d'organiser le scrutin présidentiel le 11 octobre et les élections communales en 2016. Depuis l'élection d'Alpha Condé à la tête de la Guinée, les relations entre opposition et pouvoir guinéen sont exécrables et beaucoup redoutent de nouvelles violences lors de la présidentielle.
Le gouvernement malien et la médiation internationale ont écarté hier toute discussion du contenu de l'accord de paix d'Alger, appelant de nouveau le mouvement rebelle du nord du Mali à le paraffer en l'état. Claire Morin-Gébourg.
La CMA, la coordination des mouvements de l'Azawad, a plusieurs revendications et notamment la reconnaissance officielle de l'Azawad comme une entité géographique, politique et juridique, en référence à l'appellation du nord du Mali par les rebelles, mais aussi la création d'une assemblée interrégionale couvrant cette zone et un quota de 80% de ressortissants de l'Azawad dans les forces de sécurité. Dans un communiqué publié hier, la médiation internationale précise que la phase des négociations est achevée, mais disant avoir pris bonne note des exigences présentées lors de la rencontre de Kidal, elle souligne que cet accord n'a pas la prétention de résoudre à la fois et dans l'immédiat tous les problèmes posés. De son côté, le gouvernement malien affirme de manière solennelle que le paraphe du document, en attendant sa signature, exclut toute idée d'ouvrir de nouvelles négociations sur son contenu. Son porte-parole, Choguel Maïga, a déclaré que les autorités maliennes appellent la médiation à ses responsabilités en tant que garant du processus de paix.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Une fusillade dans un bar à Gothenburg en Suède a fait plusieurs morts et plusieurs blessés la nuit dernière. Les blessés ont été transportés à l'hôpital, a déclaré à l'AFP une porte-parole de la police. Une arme automatique a été utilisée, a-t-elle précisé, ajoutant que cette attaque pouvait être liée au crime organisé. La police a ensuite annoncé dans un communiqué que le nombre de morts était susceptible d'augmenter.
La réélection du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou n'aura aucun impact sur les négociations nucléaires avec l'Iran, assure le Département d'État américain. De son côté, la Maison-Blanche a réaffirmé hier son soutien à une solution à deux États dans les négociations israélo-palestiniennes. Des précisions avec Eddy Issango.
Monsieur Netanyahou s'était juré à la veille du scrutin de ne jamais accepter la création d'un État palestinien aux côtés d'Israël. Mais le président Barack Obama continue de penser que cette solution est la meilleure façon de répondre aux tensions, a déclaré hier Josh Ernest, porte-parole de la Maison-Blanche. Monsieur Ernest a par ailleurs exprimé l'inquiétude des États-Unis face à certains discours qui divisent et cherchent à marginaliser les citoyens arabes israéliens. Concernant les nucléaires iraniens, les porte-parole du département d'État américain, Jen Psaki, a déclaré « Nous connaissons depuis longtemps le point de vue du Premier ministre sur l'Iran », ajoutant que la réélection de M. Netanyahou n'échangera pas la donne. Les négociations avec l'Iran se poursuivent à Lausanne, en Suisse. Les relations entre M. Obama et Netanyahou, notoirement tendues, se sont encore aggravées avec la venue à Washington du Premier ministre israélien à l'invitation des républicains du Congrès pour un discours dans lequel il a dénoncé avec virulence les négociations en cours avec l'Iran.
Au Yémen, le trafic aérien à l'aéroport international d'Aden a été suspendu ce jeudi en raison de violences dans les environs entre partisans et adversaires du président Abdrabo Mansour Hadi, rapporte l'AFP. Plusieurs vols ont été annulés, a déclaré une source aéroportuaire, tandis que de violents accrochages opposaient des unités des forces spéciales dirigées par un officier rebelle et des membres des comités populaires partisans du président Hadi.
Human Rights Watch a dit que les forces gouvernementales ukrainiennes et les rebelles ont utilisé des bombes à sous-munitions dans l'est de l'Ukraine en janvier et février, tuant au moins 13 civils, dont 2 enfants. L'ONG internationale a déclaré ce jeudi qu'aucune des parties dans le conflit ne devait utiliser ces armes et a averti que leur utilisation pourrait constituer un crime de guerre.
Une cour indonésienne a examiné un recours de deux trafiquants de drogue australiens condamnés à la peine capitale et a fixé la prochaine audience au 25 mars, rapporte l'AFP. Ce même jour, un autre tribunal examinera le recours du Français Serge Atlaoui, également condamné à mort. Les Australiens Andrew Chan et Murian Sukumaran ont été condamnés à mort en 2006 en Indonésie pour trafic d'héroïne. Les demandes de grâce présidentielle ont été rejetées. Une décision pourrait être rendue début avril.
Et le gouvernement du Vanuatu reproche aux organisations humanitaires mobilisées dans l'archipel dévasté par un cyclone une mauvaise coordination ayant causé une perte de temps considérable au secours, indique l'AFP. Le vice-président de la Commission nationale des catastrophes, Benjamin Shing, a remercié les associations internationales tout en soulignant que la famine menaçait les habitants. Beaucoup d'ONG ont travaillé dans leur coin plutôt que de coopérer avec le gouvernement, a-t-il déploré. Vendredi, le cyclone PAM, avec des rafales supérieures à 320 km/h, a fait plusieurs morts et détruit de nombreuses habitations sur l'archipel. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est dans la Minute Éco avec Jean-Roger Bion.
La Banque centrale américaine a fait hier un pas supplémentaire vers une hausse de ses taux d'intérêt. La Fed a changé de posture en abandonnant son engagement à se montrer patiente, même si elle a précisé qu'un tel relèvement n'aurait pas lieu en avril. À l'issue de deux jours de réunion à Washington, le comité monétaire de la Réserve fédérale a une nouvelle fois confirmé le maintien de ses taux directeurs proches de zéro, leur niveau depuis fin 2008 afin de continuer à soutenir la reprise aux États-Unis. Cameroun, plus de 36 milliards de francs CFA pour l'approvisionnement en eau potable à Yaoundé. Ce capital a pu être réuni grâce à une convention de coopération entre la Société Générale de France, la Banque Import-Export des États-Unis et le gouvernement camerounais. Les projets visés devraient permettre en phase d'urgence de porter l'offre à 205 000 mètres cubes pour la capitale Yaoundé en proie à l'assèchement régulier des robinets. Et le groupe informatique américain Microsoft a annoncé que son nouveau système d'exploitation Windows 10 serait lancé cet été dans 190 pays et disponible en 111 langues. Microsoft avait précédemment indiqué en début de semaine que le futur système d'exploitation offrirait la possibilité de se connecter sans mot de passe en utilisant des technologies biométriques comme la reconnaissance faciale.
Merci beaucoup Jean-Roger pour cette page économie. Et à présent, les sports avec Nicolas Pinault. Bonjour Nicolas.
Bonjour Nathalie.
Alors la CAN Junior au Sénégal, l'heure de vérité pour les Lionceaux de la Teranga.
Le pays organisateur affronte tout à l'heure le Mali pour une place en finale. Les Maliens premiers du groupe B partent légèrement favoris, alors que le Sénégal a arraché sa qualification lors de l'ultime journée face au Congo, victoire 4-3. Le coup d'envoi, c'est tout à l'heure, 17h, temps universel. Le vainqueur de cette demi-finale rencontrera le Nigeria. Les Flying Eagles ont battu les Black Starlets du Ghana hier, 2-0. Obinna Emmanuel Mbobodo avait ouvert le score en première mi-temps. Puis c'est le capitaine nigérian Moussa Mohamed qui a porté le coup de grâce en fin de match, victoire 2-0. Les Nigérians atteignent donc la finale de cette CAN Junior.
La Côte d'Ivoire, victorieuse de la CAN 2015, affrontera finalement la Guinée équatoriale et non la Guinée en match amical le 29 mars à Abidjan.
Le désistement de la Guinée relève d'un problème administratif, a précisé la Fédération ivoirienne de football. Un autre match amical contre l'Angola est toujours prévu le 26 mars à Abidjan.
Le championnat d'Égypte va reprendre le 30 mars, mais tous les matchs seront à huis clos.
Le championnat avait été suspendu à l'issue des violences meurtrières devant un stade du Caire début février. Le gouvernement égyptien autorise donc la reprise du championnat. C'est ce qu'a indiqué le bureau du Premier ministre Ibrahim Marlab dans un communiqué.
Les derniers huitièmes de finale de la Ligue des champions en Europe. En Allemagne, le miracle n'a pas eu lieu. La Juventus de Turin s'est qualifiée aux dépens de Dortmund. Le score final hier soir, 3-0. Au Camp Nou non plus, il n'y a pas eu de suspense. Le FC Barcelone vainqueur à l'aller en Angleterre se qualifie aussi pour les quarts de finale. 1-0 hier soir contre Manchester City. Et enfin, Nicolas, le tournoi de tennis d'Indian Wells aux États-Unis.
Oui, Andy Murray a mis fin au parcours d'Adrien Manarino, le score en 2-7, 6-3, 6-3. Et puis Nathalie, je vous laisse donner quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain.
Oui, 5 matchs hier soir. Les Chicago Bulls ont gagné le match contre les Pacers 103-86. Les Spurs de San Antonio gagnant contre les Bucks de Milwaukee 114-103. Los Angeles a gagné le match contre Kings de Sacramento 116-105. Washington Wizards gagnant contre Utah Jazz 88-84. Et les Warriors ont gagné contre Atlanta 114-85.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers du jour. 21 morts, dont 17 touristes et au moins 24 blessés. C'est le dernier bilan de l'attaque contre le musée du Bardo à Tunis. Hier, des hommes armés ont ouvert le feu sur les visiteurs. L'attaque intervient dans un contexte politique encore très tendu et une situation économique qui ne fait que s'aggraver depuis le printemps arabe. Pour une analyse, Salwa Jafari a joint à Paris le spécialiste du monde arabe Mustapha Tossa.
C'est le genre d'opération auquel se livrent des organisations terroristes comme Al-Qaïda ou l'État islamique. Et on sait que depuis un certain temps, les autorités tunisiennes avaient procédé à des démantèlements fréquents de cellules terroristes qui préparaient des attentats en Tunisie. Ils avaient aussi découvert des caches d'armes. Donc il y avait une pression sécuritaire sur la Tunisie qui était extrêmement importante et palpable. Et cette pression sécuritaire vient toujours du chaos libyen. On sait qu'il y a des organisations terroristes très actives en Libye et qui ont promis de commettre des attentats en Tunisie. Et donc ils ont réussi à tuer des gens et surtout à s'attaquer à des symboles dans un contexte politique extrêmement important pour la Tunisie.
Que pouvez-vous nous dire sur le contexte politique actuel ?
D'abord, la Tunisie est un des rares pays du printemps arabe qui a réussi relativement une douce et démocratique transition qui a été saluée par beaucoup de pays, dont les États-Unis et l'Union européenne. Donc, il y a une jeune démocratie qui était en train de naître et de grandir. Donc, il faut dire qu'un certain nombre d'organisations terroristes n'ont aucun intérêt à ce que ce genre d'expérience puisse voir le jour sur le territoire arabe. Le deuxième message, c'est de voir aussi à quel point la Tunisie voisine est impactée par la situation en Libye. Tant qu'on n'a pas réussi à trouver une solution sécuritaire à ce qui se passe en Libye, on aura forcément des impacts de ce chaos sur les pays voisins. Et je considère que cette opération terroriste, parce qu'elle vise un lieu touristique à côté d'un lieu politique symbolique qui est le Parlement, fait partie de ces démarches, de ces entreprises de terreur qu'exportent des organisations comme l'État islamique ou Al-Qaïda. Troisième élément qui est très important, il ne faut pas oublier que cette opération terroriste intervient à la veille d'un projet de réconciliation nationale que le nouveau président de la République, Bachir Kaïd Sebsi, allait proposer aux Tunisiens. On peut envisager que cet attentat-là a pour but aussi d'empêcher la réconciliation et la stabilisation et la pacification des esprits en Tunisie.
C'était le journaliste et politologue Mustapha Tossa. Hier, le ministre nigérien de la Défense a parlé de questions de sécurité sur la voie de l'Amérique. Le sud de la Libye continue d'être une grande source d'insécurité, a expliqué Mamadou Karidio, tout en soulignant que l'armée surveille également la situation sur les autres frontières, notamment avec le Mali et bien sûr le Nigeria. Voici la seconde partie de l'entretien avec notre envoyé spécial Idriss Fall.
Tous les trafiquants du monde sont en Libye. Et nous savons que le sud libyen est devenu leur terreau.
Nous avons pris des dispositions au niveau du Niger pour mettre en place des bataillons autonomes et essayer de verrouiller le passage qui peut les amener au Mali. On essaie de contrôler le trafic entre la Libye et le Mali. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile, mais nous sommes en train de faire ce que nous pouvons faire avec nos forces spéciales et aussi la collaboration des partenaires stratégiques. Bien sûr que à un moment donné, on était plus concentré sur le sud libyen, sans perdre des yeux ce qui se passait au Nigeria, je veux dire sur notre frontière au niveau de Difa. Et à un moment donné, comme nous avons senti que la menace était vraiment imminente, nous avons renforcé nos positions sur cette frontière-là, tout en restant avec assez d'effectifs sur les autres positions. Telle enseigne que aujourd'hui, nous sommes, si vous voulez, au niveau des trois frontières, notamment la frontière avec le Mali, la frontière avec la Libye et la frontière avec le Nigeria.
Quel est l'apport des États-Unis dans la lutte contre le terrorisme?
Beaucoup de renseignements que nous partageons avec les États-Unis d'Amérique, beaucoup d'interventions au niveau de la formation de nos hommes. Nous avons des forces expéditionnaires, des forces spéciales qui ont été formées par les forces armées américaines. Nous avons beaucoup de matériel qui ont été donnés par le gouvernement des États-Unis d'Amérique. Je dirais que la coopération entre les forces armées américaines et les forces armées nigériennes est très fructueuse et c'est des partenaires stratégiques qui, sur le terrain, nous aident par le renseignement et la formation. Ils n'interviennent pas au combat, au sol avec nous, mais en tout cas, ils nous donnent assez de renseignements pour nous permettre d'anticiper et d'accomplir nos missions avec le minimum de risques.
Les drones américains sont toujours présents, déployés ici, et il y en a combien?
Je souhaiterais ne pas vous dire combien il y en a, mais ils sont là quand même.
Le ministre de la Défense du Niger, Mamadou Karidjo.
La Voix de l'Amérique au Niger sur Enfani FM à Niamey, Zinder et Agadez et sur Radio Dalol FM à Dongondouchi.
Au Tchad, c'est en principe aujourd'hui que les cours reprennent à N'Djamena. Ils avaient été suspendus par les autorités suite aux violents incidents liés à l'imposition du casque aux motocyclistes, des incidents qui avaient coûté la vie à un étudiant. Estimant avoir été pris à partie alors qu'ils n'étaient pas à l'origine des violences, les étudiants avaient déclenché une grève illimitée en signe de protestation. En dépit des concertations avec les autorités, ils estiment que leurs principaux griefs n'ont pas été pris en compte. Timothée Donangmaï a joint hier soir à N'Djamena Nadjo Kaina, le président de l'Union nationale des étudiants tchadiens.
Dès le départ, le bureau national des étudiants tchadiens a posé quelques conditions avant la reprise des cours. Nous avons été reçus par le chef de l'État. Nous avons essayé de discuter sur les conditions. Et comme nous l'avons dit à la sortie de l'audience, nous allons faire un compte-rendu à la base. Et c'est ensemble, avec les étudiants, que nous allons décider dans quelle mesure nous allons reprendre avec les cours.
Quelles sont ces conditions?
Donc, le bureau national de l'Union avait posé comme première condition le départ sans condition du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. On a mis sur pied une enquête spéciale où l'UNED sera parti, c'est-à-dire devant la justice les coupables et la suivi des blessés. Et je crois que quelques points ont été abordés par le chef de l'État. Et comme nous l'avons dit, nous allons faire un travail avec les étudiants à la base. Nous allons voir quelles sont les avancées. Et c'est ainsi que nous allons voir dans quelle mesure nous allons reprendre avec les cours.
Aux dernières nouvelles, on a appris l'interpellation des policiers qu'on a vus sur cette vidéo en train de violenter des lycéens. Quelle est votre réaction à cela?
Bon, je crois que, comme nous l'avons dit, nous voudrions que la lumière soit faite afin qu'on situe les responsabilités. Si les policiers arrêtés sont coupables, ils doivent être traduits devant la justice pour le compte de leur acte. Et je crois que lors de cette bavure, il n'y avait pas seulement que 11 policiers. Et nous attendons la suite de l'enquête pour voir.
Quel délai vous donnez-vous pour arrêter une position?
Je crois que les étudiants sont en grève très limitée. En même temps, nous sommes en train de faire un travail préalable avec les étudiants. Donc, nous n'avons pas de délai à donner de temps puisque nous sommes déjà en grève très limitée.
Donc, on peut conclure que vous n'êtes pas satisfait par les mesures prises jusqu'ici par les autorités.
Je crois qu'il y a quelques avancées. Il y a certains points qui n'ont pas été encore pris en compte. Et nous attendons toujours la suite. Et néanmoins, nous allons faire le compte rendu fidèlement aux étudiants. Et ensemble, lors d'une assemblée générale, je crois que nous allons décider si nous allons reprendre avec les cours ou pas encore.
Mais ne pas reprendre les cours, est-ce que cela ne vous causera pas du tort pour l'année académique?
Certes, monsieur, c'est aussi un moyen de pression pour que la lumière soit faite et que de tels événements ne se répètent plus.
Nadjo Kaina, président de l'Union nationale des étudiants tchadiens.
La Voix de l'Amérique au Tchad, 24 heures sur 24, à N'Djamena, en direct sur 93.1 FM et sur FM Liberté, aussi à N'Djamena.
Une conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique s'est ouverte mercredi à Abidjan. Pour les dirigeants africains, les experts des institutions financières, il s'agit d'étudier les mécanismes à mettre en pratique pour ce faire. Voici un reportage de Germaine Dry, notre correspondant à Abidjan.
Environ 40 pays invités avec près de 300 experts de haut niveau vont à travers des panels et conférences évaluer les conditions de l'émergence, améliorer leur politique et stratégie par rapport aux leçons apprises et saisir les opportunités nouvelles pour le bien-être des populations. Dès l'entame des échanges, Riyad Medim, conseiller économique principal pour le développement des Comores, a affirmé qu'il attend beaucoup des autres.
Ce qu'on attend de cette conférence, c'est les échanges de bonnes pratiques sur les stratégies d'émergence, d'autant plus qu'on est passé d'un document de stratégie et de réduction de la pauvreté classique à une croissance accélérée et dans laquelle nous mettons l'environnement comme un moteur de la croissance. Et surtout apprendre de certains pays qui sont déjà arrivés au niveau de l'émergence les meilleures pratiques.
Les objectifs pour atteindre l'émergence sont multiformes. C'est pourquoi les points de vue des dirigeants sont variés. Aboula Amandiaye, traité régional du PNUD pour l'Afrique, a énuméré deux contraintes à ne pas négliger.
D'abord, il y a des contraintes d'ordre structurel. Très souvent, c'est des économies basées sur un secteur. Le pétrole, le café, le cacao. Et quand il y a des retournements de conjoncture, l'économie s'effondre. Il faut que les économies soient diversifiées, interconnectées et que les facteurs de production passent des secteurs moins productifs vers les secteurs plus productifs. Un petit pays ne peut pas émerger comme ça tout seul, sans l'intégration économique. On ne pourra pas émerger sans coopération et intégration régionale.
Le président sénégalais Macky Sall pense que la croissance seule ne suffit pas.
La croissance n'est pas une fin en soi. Elle n'a de portée réelle que si elle transforme qualitativement et de façon durable les conditions de vie des populations. En plus d'être forte et durable, la croissance qui conduit vers l'émergence doit générer des emplois, faire reculer le chômage et la pauvreté et réduire les inégalités sociales. L'Afrique a des déficits substantiels qu'elle ne peut combler qu'en changeant de rythme et d'approche dans ses politiques de développement.
Le chef de l'État ivoirien estime qu'il faut tenir compte de la coopération. Alassane Ouattara.
Si nous voulons réussir le pari de l'émergence, nous devons promouvoir l'efficacité de la coopération au développement, à commencer par la coopération sud-sud et la mobilisation des ressources intérieures. Renforcer le partage des connaissances et des capacités humaines et institutionnelles en vue d'accroître la valeur ajoutée intra-africaine et le progrès technologique, gage d'une amélioration des moteurs de la croissance. Lutter contre le terrorisme, le trafic des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, et le trafic des marchandises illicites.
Germaine Dry, Abidjan, VOA Afrique.
Bénin, alors que le gouvernement a interdit la consommation de viande d'animaux sauvages afin de préserver les populations contre le virus Ebola, certaines localités n'entendent pas changer leurs habitudes alimentaires. Plusieurs mois après l'interdiction, notre correspondant Peggy Ludovic Dagba s'est rendu à Alada, dans le sud du pays, une région réputée pour la viande d'agouti.
La localité d'Alada, située à une soixantaine de kilomètres de Cotonou, dans le nord du Bénin, est connue pour être le berceau de la viande d'agouti. La consommation des viandes de brousse y est une tradition et les habitants ne pensent pas s'en départir malgré le risque de contracter le virus Ebola. Quelques-uns d'entre eux se sont confiés à nous.
Nous aimons les viandes de brousse parce que tous nos aïeurs consommaient la viande de brousse. C'est pourquoi nous aussi, nous consommons ça jusqu'à présent. Si Ebola existe ou pas, nous ne le savons pas. Il n'y a pas un cas confirmé au Bénin. C'est pourquoi nous consommons.
Et vous allez continuer toujours pas consommer?
Oui, nous consommons toujours.
Je mange la viande de la brousse.
Mais vous n'avez pas peur des maladies?
Non.
Je continue pas à manger les viandes de brousse, précisément la viande d'agouti. J'aime trop ça, je ne peux pas laisser. Il y a aussi le prix. Les autres viandes sont plus chères. Mais par rapport même au virus d'Ebola, vraiment, il faut y croire pour s'empêcher d'en consommer. Parce que cette histoire de virus d'Ebola, vraiment, on sait qu'il y en a, mais ce n'est pas encore venu au Bénin.
L'activité que constitue la vente de cette viande y est aussi héréditaire. Elle se transmet de la mère à la fille et rien ne peut la leur arracher. Pas même l'interdiction du gouvernement, comme nous le précise ici cette vendeuse rencontrée à Alada.
Ce commerce, je l'ai hérité de ma mère. Je vends la viande d'Agouti depuis 30 ans. On en fait toutes sortes d'usages alimentaires et personne n'est jamais tombé malade. Cette mesure n'a fait qu'entraîner la mévente et nous sommes endettés jusqu'au bout. C'est ce commerce qui nous permet de joindre les deux bouts.
On le constate bien, les décisions gouvernementales ont du mal à passer au niveau des populations à la base. Peggy Ludovic Dagba, Cotonou, VOA Afrique.
Ainsi va le monde aujourd'hui. La mise en onde était assurée par Anne Albertson. À la console, c'était John Ellison. Avec vous, c'était Nathalie Barge. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voaafrique.com. Bon jeudi à toutes et à tous.